L'émission de l'Olivret de cette semaine a été enregistrée en février. Or, le 10 mars, Paul Balmel, un de mes deux invités de l'Olivret de cette semaine, est décédé. Je vous propose néanmoins de bénéficier de cette excellente émission que nous avons faite à trois, donc moi-même, Hélène Sauvignon, Père André Chaput et Paul Balmel, sur le sujet des chemins de Saint-Gilles, cette association qui a été fondée par Paul Balmel. Cette semaine, nous nous intéressons au chemin de Régordane, plus par l'aspect pèlerinage. On est avec des gens de l'association du pèlerinage de Saint-Gilles. Hein, c'est comme ça que s'appelle le chemin de Saint-Gilles.
Chemin de Saint-Gilles.
Paul Balmel et le père André Chaput, vous êtes tous les deux premiers membres de cette association qui existe depuis maintenant 35 ans. Elle est dans sa 36e année. On s'intéresse à ce chemin. C'est un chemin antique, hein, père Chaput. Un chemin antique qui a été beaucoup utilisé à l'époque médiévale, qui a connu un déclin au moment des guerres contre les Albigeois. Hein,
croisade des Albigeois, oui.
Mais ensuite, il a continué quand même à être utilisé.
Il a toujours été un lieu de passage, une pénétration. Parce qu'entre la vallée du Rhône et la côte aquitaine, ben c'est un peu la seule grande... Enfin, il y en a d'autres, mais dans les Cévennes, c'est le seul point de passage. Hein. Donc, il a toujours eu une certaine importance. Alors, on en a parlé au Moyen-Âge, on a parlé à l'époque antique, on a d'éléments de référence, mais quelques-uns quand même. Et puis après, bon, c'est vrai que pendant les troubles du XVIe siècle...
Les grandes compagnies,
oui, alors...
Tous ces brigands qui venaient là tirer de l'argent ou faire du chantage sur les gens qui passaient, prendre leur dîme au passage, quoi.
Oui.
Et donc, il y a eu une diminution du passage à ce moment-là, voilà.
Pendant les troubles religieux du XVIe siècle, il fallait descendre les troupes, hein, la guerre des Camisards, en 1703. On a un document intéressant d'un grand maître des eaux et forêts qui s'appelait Louis de Froidour, qui a fait ce qu'on appelle une visitation, c'est-à-dire il a fait, si vous voulez, il a parcouru le chemin et il l'a décrit pour voir ce qu'il faudrait faire pour en faire une voie de grande communication, dirait-on aujourd'hui. Et donc c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on a commencé à améliorer ce chemin, qui était un sentier amélioré, hein, qui était un grand sentier, une draille, si on peut dire, pour en faire une route. Hein. Et au XIXe siècle, ça a été vraiment une route nationale, d'ailleurs, hein, qui passait par Clermont, Le Puy. Et d'ailleurs, elle a été doublée par la voie ferrée, le Cévenol. Vous voyez, c'est le même itinéraire, c'est le même tracé. Donc je crois qu'il faut dire... Et actuellement, c'est un tracé important pour le tourisme. Hein. C'est toujours... nous sommes toujours dans l'actualité, en quelque sorte. Ce chemin de Régordane, il est toujours d'actualité.
Mais quand ça est devenu une nationale, est-ce que ça passait exactement sur le même tronçon qu'à l'époque médiévale? Parce que j'ai compris qu'on pouvait l'utiliser qu'à dos de mulet.
Alors non, bien sûr. Encore que l'étude de Marcel Giraud, elle est vraiment, j'allais dire presque mètre par mètre. Donc on voit très bien des endroits où on a abandonné le tracé antique pour faire la route, hein. Et donc on retrouve ce tracé antique. Par exemple, il y a un des endroits qui est très beau, c'est entre la gare de Guérin et Villefort. Voilà, donc de la gare de Guérin, le chemin antique de Régordane, il descend en lacet, on ne peut le faire qu'à pied ou à dos de mulet, alors que la route nationale, évidemment, elle fait de grandes circonvolutions, mais c'est le même point de départ, le même point d'arrivée. Après, il y a eu le grand chambardement, si on peut dire, ça a été la construction du barrage qui a fait disparaître le village de Bayard, qui était une étape. Hein. Donc là, il est perdu, mais on le retrouve après jusqu'à Villefort, au collet de Villefort et jusqu'à Génolac. On peut suivre très bien l'itinéraire, hein. Sauf qu'il est abîmé certains endroits par la route, effectivement. Mais on est dans la même direction. Hein. Et je crois que ça, c'est essentiel.
On le retrouve d'autant mieux dans la partie Cévenol qu'il était très difficile de faire passer une route nationale sur ces chemins de mulets. Alors qu'entre Le Puy et Langogne, ou Le Puy ou Pradel, qui est sur un plateau, là, pratiquement, on trouve difficilement l'ancien chemin parce que la route nationale a pris
la
carrément,
place.
Carrément la place.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Et si on veut trouver des vestiges et le vieux chemin avec des ornières, ce qui prouve que c'était très fréquenté. Hein. Pourquoi des ornières d'ailleurs? On s'est posé la question Mais c'est toujours en descente parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de frein. On mettait ce qu'on appelle les bâtons dans les roues et on faisait glisser le char qui était tiré par des mulets ou par des bœufs quelquefois, surtout dans la Haute-Lozère. Et on voit très bien les traces des... Et même Marcel Giraud s'était amusé à mesurer l'espace entre les deux rails, si on peut dire, parce que ça fait véritablement des rails, et pour déterminer quel était le genre de char qui était tiré. Parce qu'à l'époque, les charrettes étaient très souvent, n'avaient pas d'axe, non, puis n'avaient pas d'axe de rotation. S'il y avait des virages, ils étaient obligés de faire des virages très longs, parce qu'il y avait quatre roues sur ces charrettes, souvent, tirées par les bœufs, c'était des gros chars. Et il ne pouvait pas tourner puisqu'il n'y avait pas ces pivots qu'on a trouvés plus tard, qui permettaient de faire des chemins en zigzag très serrés. Voilà. Et bon, il s'était amusé, enfin amusé non, il a fait une recherche là-dessus, il a fait même un bouquin, ce qui prouve qu'il y avait un passage énorme, puisque pour entamer le rocher, même si c'est du schiste, qui n'est pas très très dur, mais enfin il y a du grès par endroit, et on retrouve très très bien le passage des charrettes. Voilà, ce qui prouve qu'il y avait du monde, et certainement c'était des chars ou des charrettes très chargées, parce que pour entamer le rocher, il faut qu'il y ait du poids dessus, hein, voilà.
Ah oui, ça c'est sûr.
Je me souviens, moi, ça m'a beaucoup marqué ça. Le premier pèlerinage qu'on avait fait, il y avait encore, ils n'avaient pas refait la route entre la Bastide et le Thor, qui est un petit village à 1000 mètres quand même, même plus.
1100, oui.
Oui. Ouais, on avait passé une nuit magnifique parce que c'était vraiment un hameau qui n'avait pas bougé depuis le Moyen-Âge. Il y avait quelques fermes avec des vaches. Hein. Et puis, quelques années après, ils ont fait la grande route qui a coupé tout ça. Donc, le tracé antique qu'on a connu, ouais. Ben, il n'y est plus. Il y a la route à la place. Et le Thor est devenu une étape avec restaurant et tout ça. Avant, c'était les privilégiés qui y étaient. Maintenant, tout le monde y passe. On a une vue splendide de là-haut.
Ah oui,
ça
parce
domine,
que là,
on domine a toute la montagne des Cévennes.
On a surtout le Chassezac et les montagnes de l'Ardèche en face. Enfin, c'est énorme. On voit,
magnifique.
Et on voit jusqu'à bien après Villefort. On voit sur les montagnes qui sont au-dessus des Vences. Il y a une vue splendide. C'est la modernité, puisque maintenant, on peut y aller en voiture.
C'est, oui.
Mais, c'est sûr. Hein. Mais quand on regarde votre association, le chemin de Saint-Gilles, en fait, il y a cette route-là qui est la première, hein, que vous avez d'ailleurs utilisé au départ. Vous êtes parti du Puy, vous êtes allé à Saint-Gilles. Mais maintenant, on a l'impression de voir comme une feuille devant soi, ou des veines, enfin, ça part de Gap, ça part de Die, ça part de Viviers, de la Louvée,
oui.
De Vézelay, de Brioude, Saint-Flour, Rocamadour, Rodez, Encalcate, et même l'Espagne.
Toutes les routes.
Alors, même de Toulouse, il y en a certains qui ont fait le pèlerinage à pied, important de Toulouse. Parce que, pourquoi à Toulouse ? Parce qu'à Toulouse, il y a encore des reliques de Saint-Gilles. À Saint-Cernin de Toulouse, on prétend qu'il y a la moitié du corps de Saint-Gilles. Paraît-il, les comtes de Toulouse et de Saint-Gilles auraient partagé le corps en deux parties pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Voilà.
Mais
donc,
ces routes-là,
de très loin.
Donc, ces routes, c'est que tout le monde convergeait vers Saint-Gilles.
Oui.
Est-ce qu'elles étaient autant utilisées que celles depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Gilles ?
Non.
La plus importante de toutes, c'est celle du Puy, c'est ça ?
C'est-à-dire, celle du Puy, c'est la route historique.
Oui.
Hein, que je mets. Et c'est l'association qui a eu l'idée pour varier, si vous voulez, l'itinéraire et puis pour faire la rencontre qu'en éventail autour de Saint-Gilles, on pouvait partir d'un certain nombre d'endroits qui sont un peu des têtes de... Pas toujours, mais enfin... Les têtes de pont selon la durée aussi. Voilà. Quand on part de Pont-Saint-Esprit, on sait qu'on en a pour une semaine de pèlerinage.
Hein, à pied,
bien sûr. Oui.
On marche bien, hein, une semaine de faire Pont-Saint-Esprit-Saint-Gilles.
Oui.
Ah, mais d'autant qu'on va partout droit, hein, on fait des petits crochets. Puis si on va traverser le Rhône, on va à Boulbon, on va à Tarascon, enfin voilà.
À Frigolet. On essaie pendant ces semaines de pèlerinage de rencontrer les communautés chrétiennes ou des communautés religieuses. On essaie de faire des rencontres pour être vraiment des pèlerins, quoi.
On se retrouve demain pour continuer de parler de ce chemin de Saint-Gilles, ce chemin qui historiquement était le chemin des Régordanes. Et vous êtes de l'association des chemins de Saint-Gilles, Paul Balmel et André Chaput. À demain.